Quelle relation l'écriture théâtrale tisse-t-elle avec les langues et les cultures des auteurs ? Telle est la question qui était posée lors de la deuxième rencontre des Zébrures du printemps 2024, un festival organisé par les Francophonies des écritures à la scène, en partenariat avec Arsena. Nadal Fidine, Josué Mugisha, Mélissa Mambo-Bangala et Émilie Monet étaient les invités de cette discussion, modérée par Olivier de Frégaville.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième conversation des Zébrures de printemps 2024. Avant de rentrer dans le vif du sujet dans lequel nous allons aborder les relations entre écriture, langue et culture, je vais proposer à nos quatre auteurs et autrices de se présenter avant de les questionner sur leur texte. Émilie.
Alors, moi, c'est Émilie Monet.
Bonjour, je suis Nadal Fidine. Je viens du Nord Cameroun, plus précisément de Maroua. Je suis autrice de Ouïlé, évidemment.
Bonjour, je m'appelle Mélissa Mambo-Bangala.
Bonjour, je m'appelle Josué Mugisha.
Alors, dans vos quatre textes qu'on a pu entendre depuis hier, il y a le chant qui est très important dans tous vos textes, hein, qui vient nourrir votre écriture. Il y a le mélange des langues aussi, qui donne des couleurs très différentes à chacun de vos textes. Je voulais commencer avec toi, Nadal Sydney, sur Ouïlé. Déjà, peut-être nous dire ce que signifie Ouïlé.
Ouïlé, c'est dans ma langue maternelle, le Tukuri. Nous sommes un peuple à cheval entre le Tchad et le Cameroun. Et Ouïlé, c'est le chant des femmes. Ouïlé, c'est... Ça n'a pas d'explication en français. C'est juste le chant, c'est la danse. Et comme toutes les chansons, c'est un chant qui se fait en couplet et chœur. Les couplets sont dits par une poétesse, la poétesse du village, celle qui a le verbe, celle qui a la voix, celle qui sait allier humour et verbe en même temps. Et les couplets sont souvent appris de manière... circonstanciel, c'est parce que le chant en lui-même, il est d'abord un chant improvisé et tout simplement pour faire parler les femmes, parce que dans ma communauté, les femmes, comme beaucoup de femmes africaines, n'ont pas droit à la parole et elles ont quand même le chant où elles peuvent exprimer tout ce qu'elles sentent, tout ce qu'elles ressentent, tout ce qu'elles vivent, tout ce qu'elles voient et même tout ce qu'elles espèrent. Et dans leur chant, généralement, c'est pour dire les travers, pour dire les comportements déviants de la société, en tant que femme, ce n'est pas rien que les hommes, et aussi pour, surtout pour attirer l'attention du chef, qui lui a la parole et la parole forte.
Hier, dans la première présentation, on évoquait le réel et la fiction, et ton texte est un peu à cette frontière-là, c'est-à-dire que. Tu es partie de faits réels, hein, qui se passent dans le nord du Cameroun, si je ne me trompe pas, et pour aller vers quelque chose de, où l'esprit, où la foi, la croyance vient habiter les différents personnages de ton histoire et fait que tu évoques aussi la place des femmes dans ton pays.
Oui, le texte, le sujet n'est pas que camerounais, parce que c'est un sujet assez universel. La disparition des enfants, la perte des enfants, ce n'est pas qu'au Cameroun que ça se passe, ni seulement à l'extrême nord. C'est d'ailleurs ici en France, le dernier encore, l'affaire Émile, je pense qu'il est encore dans les mémoires. Et donc c'est un sujet universel. Et chez moi, quand ces choses arrivent, on pense que c'est la volonté de Dieu parce qu'il y a la culture qui se confond un peu avec le christianisme et l'islam. Les deux religions qui ont été apportées à nos peuples. Et donc, il y a ce fatalisme qui, de plus en plus, prend de l'ampleur. On ne travaille plus, on ne réfléchit plus, parce qu'on pense que c'est la volonté de Dieu. Et à travers ce texte, je voulais briser ce fatalisme et propulser l'action dans les pensées, en fait. Et la culture, il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'islam et le christianisme. Mais avant l'arrivée de ces religions-là, nous, les Africains, nous étions animistes. Et c'est pour ça qu'il y a cette scène où le divin intervient, parce que même comme étant chrétien, comme nous le sommes aujourd'hui, ou musulmans, il y en a qui se réfèrent toujours à leur Dieu d'antan.
Ce qui est très étonnant aussi, c'est que la croyance du mari est assez différente de la croyance de la femme, finalement.
En fait, c'est la même croyance. Ils sont tous chrétiens. Ils s'appellent donc Créomathieu. Et la femme qui jure par Dieu. Mais c'est parce que devant la situation auquel il fait face, la perte de son enfant, qui a un problème assez délicat, c'était le seul qu'il avait. Il le dit d'ailleurs qu'il est prêt à tout. Et voilà pourquoi il se retourne vers le divin pour essayer de voir, de chercher un peu au niveau de la divination pour voir ce qu'il en est vraiment de sa situation. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il sorte de cette angoisse-là, parce qu'on sent l'angoisse en lui quand même.
Et finalement, l'un se résigne avec la croyance et l'autre se bat.
Oui, il se résigne parce que finalement, il y a une phrase que le divin lui dit, quand on est destiné à vivre, on va vivre, même si on est écrasé dans un mortier. Et je crois que sa croyance, sa foi, sa force même, bascule de ce côté-là, et ce qui fait qu'il finit par baisser les bras. Mais aussi parce que dans ma culture même, le deuil d'un enfant ne doit pas prendre beaucoup de temps. On ne doit pas s'attarder sur le deuil d'un enfant. Il faut oublier, parce qu'on se dit que la maman est là. On dit, généralement, quand c'est un tout petit bébé, on dit que c'est l'eau qui s'est versée du canari et qu'on remettra de l'eau dans le canari encore. Ça se comprend. On dit que l'enfant, la maman pourra refaire un autre enfant et la vie va continuer.
Une autre vision de la mort, le rapport à la mort est différent par rapport à nos cultures occidentales notamment.
Oui, l'idée de la mort, d'ailleurs, elle est très différente entre hommes et femmes, déjà en Afrique aussi, parce que l'homme, c'est celui qui est fort, celui qui est courageux. Il ne doit pas pleurer. Il ne doit pas pleurer la mort, il ne doit pas pleurer. Il ne pleure pas, d'ailleurs. Il est abattu, certes, mais verser des larmes, c'est difficile, surtout dans ma communauté, de voir un homme qui pleure, qui se libère, qui libère ainsi de ses émotions. Et par contre, la femme, elle peut rouler, elle peut crier, parce que c'est son quotidien, pleurer pour la femme.
Je suis dans la création qu'on a vue hier soir, dans le prémisse de la création. Tu pars d'un mythe, enfin, d'une légende de ton pays, pour raconter autre chose. Comment ça alimentait ton écriture, comment ça alimentait ta danse aussi?
Bon, premièrement, c'est pas mon écriture, c'est l'écriture de Dorcy Lugamba. Moi, je fais la mise en scène. Et il y a deux personnages dans le mythe. Il y a Tchambalarama, qui est le fondateur du royaume, et il y a Kiranga, qui est un esprit de Dieu qui peut être incarné dans un corps humain. Et ces deux personnages, en fait, nous ont beaucoup parlé d'une dualité vraiment de présence dans le monde, et une dualité du monde d'ailleurs en soi, parce que Tchambalarama, c'est quelqu'un qui va régner avec la loi, qui va encourager une conscience du bien, du mal, etc., dans le monde matériel. Mais Kiranga, par contre, lui, il est dans un monde où le dialogue est sensationnel, il est spirituel aussi. Par exemple, et ça c'est vrai, c'est même pas un mythe, ça c'est des choses qui se sont développées à partir du mythe. Il y a une culte qu'on appelle Kubandwa. Mais donc, ça veut dire que quand on incarne l'esprit de Kiranga, par exemple dans la société, les gens qui sont censés être exclus, par exemple, exclus, entre guillemets. Par exemple, si on a un handicap, ou par exemple, si tu es homme et que tu as des tendances féminines, ou tu vois, c'est ce genre de choses qu'une communauté rwandaise peut vouloir exclure. Kiranga, par contre, va créer une communauté de gens vers qui, en fait, tout le reste va venir pour prier Dieu. Donc, ça veut dire que les gens qui étaient censés être exclus, en fait, ils ont une divinité. Ça, c'est la pensée de Kiranga. Et quand on fait ce culte, il y a un moment de transe où il y a une décharge émotionnelle. Et il y a des parents, des enfants qui sont là. Et il y a un moment, quand il y a des battements de tambour et le chant, où tu peux tout dire à n'importe qui et n'importe comment. Ça veut dire qu'un enfant peut insulter sa mère parce qu'il est fâché contre elle, ou les femmes peuvent parler aux hommes comme elles veulent, ou les hommes peuvent parler. Hein. Vraiment ça. C'est un moment qui est sacré pour tout dire et se décharger, se purifier. Et le matin, on reprend la vie comme si rien n'était. Donc Kiranga règne comme ça. Alors que le roi, lui, tout est institutionnalisé. Donc, il y a donc dans ce monde aujourd'hui cette dualité donc du monde qui nous parle beaucoup avec Dorcy. Et on est en train de penser comment lui donner une forme théâtrale.
Tu disais hier aussi que le tambour représentait la femme.
Oui.
Et du coup, il y avait un rapport entre le tambour et les bâtons, l'homme et la femme, et que notamment les femmes n'avaient pas le droit de faire du tambour.
Oui. Bon, oui, au Burundi, bon, on a toujours on a un chemin à faire justement par rapport à la question du genre, mais en réalité, au Burundi, toute belle chose, on dit que c'est une femme, vraiment, la vache, le tambour, on dit que c'est une femme, ça c'est déjà là. Et alors, jouer au tambour, c'est considéré comme un acte d'amour. Justement, parce que le tambour, même les parties du corps du tambour sont exactement, bon, comme on le dit, comme un homme. C'est vraiment les parties du corps d'une femme, sauf que c'est l'homme qui a défini ça. Du coup, la femme ne l'a pas choisi. Et aussi, l'homme a défini que les baguettes seraient, voilà, ces parties intimes, quoi, pour faire, en fait, l'amour, quoi. Bon, c'est ça en fait l'idée. Mais il y a quand même il y a des fonctions différentes. Il y a des tambours qui ont des fonctions différentes. Il y a un tambour Kagenda qui est un tambour royal qui en vrai n'est jamais joué. Il est là juste pour recharger l'énergie au pays. Et il a quelqu'un qui prend soin de lui et le roi, les princes, tout le monde venait pour le toucher, le voir et il était chargé en énergie. Il y a d'autres formes de tambours qui sont joués pour donner une idée du temps. Le temps de récolter, de semer, tout du genre. Il y a aussi donc, les tambours que nous avons joués hier, ce sont des tambours qui normalement accompagnaient le roi. Mais aujourd'hui, ça s'est modernisé, on peut jouer dans des festivals, dans des cérémonies de mariage. Oui, mais donc le tambour... Alors, oui, je répondais à la question de oui, en vrai, donc les femmes au Burundi ne jouent pas au tambour.
Mélissa, dans le texte que l'on vient d'entendre, tu mélanges les langages, et ces langages finissent par faire dialogue finalement entre les personnages. Comment tu as construit ton texte ?
Je ne sais pas vraiment si je l'ai construit en fait. Parce que, comment dire, l'idée que ce mélange, c'est une construction, ça voudrait dire que, comment dire, en fait, ce mélange-là, il est naturel pour moi. En fait, c'est comme ça qu'on vit quand on est à l'intersection de plusieurs identités dans ce pays. Notre français, il est à l'image de ça, en fait. Et que moi, en fait, tout ça, c'est ma langue et que je délimite pas. Qu'est-ce qui est français, qu'est-ce qui ne l'est pas, tout ça c'est moi. En fait, pour moi finalement, il n'y a qu'une langue en vrai. Voilà.
Et comment elle fait dialogue justement? Parce que les sonorités, parfois les mots sont, en tout cas pour moi, me paraissent un peu obscurs, mais l'ensemble fait qu'on comprend tout ce qui se dit.
dirais que c'est comme une espèce de pensée en arborescence. En fait, il y a, y a un tronc et puis ça part dans tous les sens, mais ça grandit et on arrive toujours au même chemin. Si on fait l'effort de suivre, eh ben, on arrivera au même point d'arrivée, je pense.
Émilie, dans le texte qu'on a entendu ce matin, tu reconnectes finalement l'être humain, tu essayes de reconnecter l'être humain à la pensée des arbres, au dialogue avec les arbres, qui finalement a disparu dans nos sociétés contemporaines. Et comment cette idée t'est venue et comment cela est né finalement de tes racines aussi?
Oui, ben, c'était une surprise. Au début, je voulais écrire sur le fait que je suis polyglotte. Je parle les quatre langues coloniales des Amériques et puis la langue de ma mère, qui est la Anishinaabemowin, qu'elle ne parle pas, que ce sont mes grands-parents. Donc, ça a été tout un processus de réappropriation de cette langue qui nous a été interdite de parler à cause des politiques gouvernementales. Et en écrivant, j'écris beaucoup de façon automatique, souvent au début, pour faire émerger des choses. Et il y avait toujours cette phrase qui revenait du langage des arbres, d'avoir perdu le langage des arbres. Et ça m'a surpris parce que je n'avais pas du tout l'idée d'aller vers là. Et en écrivant là-dessus, ça m'a fait me souvenir d'une histoire traditionnelle qu'on a où... en fait, bien avant, au début de ce monde, les humains pouvaient communiquer avec les arbres. Ils pouvaient comprendre ce que les arbres se disaient entre eux. Et les humains ont abusé de ce cadeau que nous ont fait les arbres. Et donc, les arbres ont fait un grand conseil et ont décidé de retirer cette faculté aux humains de pouvoir les comprendre. Mais ils nous ont laissé un don ou un cadeau. Donc, par exemple, l'érable nous a laissé la sève sucrée, le bouleau nous a laissé l'écorce qui permet de faire nos canaux, nos maisons. Et il y a eu un champ. Et donc, ils ont réuni les humains et ils ont expliqué pourquoi ils nous retiraient cette faculté. Mais ils nous ont légué un champ, qui est un champ très, très vieux. Et j'avais oublié cette histoire et ça m'est comme revenu. Et à ce moment-là, j'ai comme eu l'intuition qu'il y avait beaucoup de liens entre les arbres, l'amour et le langage. Et donc voilà, c'est un peu le chemin que j'ai décidé de suivre.
Et pour enfin, revenir aussi à l'idée du genre, et, tu dis dans ton texte que l'arbre finalement n'a pas changé de sexe évidemment, mais qu'à l'époque latine, il était féminin.
Oui, les arbres étaient féminins en latin.
Puis dans la langue française, ils sont masculins. Et dans la langue de...
L'Anishinaabemowin.
Il n'y a pas de genre, finalement.
Non, on ne conjugue pas au féminin ni au masculin. On conjugue... Ben, on parle plus d'animé, inanimé. Donc, voilà. Et les arbres sont animés. Mais oui, donc je trouvais ça intéressant de réaliser qu'en fait, c'est intéressant comment dans la langue, même le français, à un moment donné, quand le latin s'est transformé en français, on a décidé... de rendre les arbres masculins. Je trouve que ça parle beaucoup d'une façon comme une langue formate une vision du monde, une conception du monde, comment on se positionne dans l'univers et dans le monde par la langue.
Dans chacun de vos textes, finalement, sont assez nourris de votre culture, de la culture de vos ancêtres, et chacun fait récit de façon très différente. Comment, justement, vous avez utilisé tout cela, tout ce background, pour... faire un autre récit et nous parler de vos histoires, de vos cultures, comment ça s'est fait.
Moi, je dirais tout simplement que la culture, c'est ma langue, la culture, c'est moi-même. Et ce que je reproduis, ce n'est qu'une partie de moi-même. Donc, ça vient naturellement parce que pour partager ses émotions, je crois qu'on doit se référer à soi-même, on doit voir en soi-même, et puis c'est comme ça que ça vient, et c'est la langue qui vient. Par exemple, il y a aussi certaines expressions qui n'existent pas déjà en français, comme yaya, maga, ça traduit et l'étonnement et la souffrance en même temps. Je ne sais pas si aïe est suffisant pour remplacer Yahya, je ne sais pas, mais je, à mon avis, il n'est pas assez intense, il n'est pas assez expressif. Et voilà pourquoi je fais beaucoup à ma langue souvent, parce que ce sont des émotions personnelles que je traduis dans mes écritures.
Moi qui est moi qui suis dans les dans l'écriture corporelle, pour être honnête, il y a quelque chose de l'ordre de l'esthétique que je cherche sur le plateau. Vraiment, je suis dans une recherche. Je trouve que chaque fois quand je mets en scène, c'est comme si cette pièce faisait école pour moi. Je suis en train de tenter des choses parce que j'ai un questionnement qui est vraiment pertinent pour moi, de savoir comment on peut créer une pièce de théâtre, comment on peut faire du théâtre dans un pays où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de livre sur le théâtre. Et ça, ça m'impressionne toujours parce qu'il y a une grande activité théâtrale au Burundi. Mais donc, je me suis dit à un certain moment qu'on doit arrêter d'avoir cette sensation qu'on est en train de rattraper le monde. Et je me dis qu'à un certain moment, on doit créer, fabriquer notre propre intelligence à partir de nos propres ressources, quoi. Donc, quand je mets en scène une création, oui, il y a justement cette partie, oui, du propos et du texte. Il y a quelque chose aussi très visuel que je trouve très intéressant, mais aussi qui est très lié à la formation de l'acteur. Je vais vous donner deux petites anecdotes comme ça. Donc, un jour, je travaille avec une dame qui est une enseignante à l'école primaire et qui n'a jamais été sur scène. Et quand on travaille avec elle, quand elle marchait, mais sur scène, on avait l'impression qu'elle flottait. Elle a une marche extraordinaire. Elle n'a jamais été sur scène. Mais sauf qu'au fait, elle allait puiser de l'eau à 4 km de chez elle avec un bidon ici, deux bidons et un bébé sur le dos. Donc, elle a vraiment travaillé son corps et elle arrive à la ligne très bien. Il y a un autre qui s'appelle Régis, qui a une voix qui casse des vitres. Et un jour, après avoir passé du temps avec lui, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu cherches chez moi? Je suis un simple cultivateur de tomates. Et j'ai compris, parce que cultiver avec la houe, que tu lèves, que tu pointes dans le sol tout le temps, ça ouvre, ça ferme, et ça vient créer une pression d'air mais extraordinaire. Donc c'est vraiment comment faire bouger les imaginaires par rapport à la question de la formation et créer de nouvelles esthétiques pour exister dans le monde en disant hey, « j'existe par moi-même ». Et venir du Burundi, du coup, être connecté au monde, pas vraiment rester dans la culture comme genre quelque chose de figé, c'est être aussi dynamique, être avec les autres, parler du plateau, parler de côté cours au jardin, mais toujours en partant de toi-même, de tes ressources.
Bon, quatre spectacles, du coup, le chant est très important aussi et permet de donner au récit une autre dimension, une autre émotion aussi. En quoi c'était important d'irriguer vos textes de ces chants, qu'ils soient traditionnels ou qu'ils soient inventés? Mélissa?
Je crois que je vais repartir de la question d'avant pour répondre. Déjà, je voudrais préciser que c'est pas la culture de mes ancêtres, étant donné que techniquement, moi je m'appelle Maïssa Mambo-Bangala, je suis née d'une mère algérienne et d'un père congolais. Il se trouve que ma mère a relationné avec un homme d'origine guadeloupéenne pendant mon enfance, et que du coup j'ai grandi dans une famille antillaise, et que j'ai appris le créole comme ça, et qu'en fait, du coup, c'est toute la question en fait de à quoi est-ce qu'on retourne exactement, qu'est-ce qui fait notre identité, qu'est-ce qui est notre culture. Tout à l'heure, je discutais avec Émilie et elle a parlé des langues qu'elle a apprises par amour aussi. Et ça, je trouve ça très important, à quel moment, en fait, des fois, on fait des choses, on s'approprie des choses, mais vraiment au sens fort, dans le sens où en fait, on aime ces choses-là. Et du coup, il y a des langues qu'on apprend pour x ou y raison et elles deviennent les nôtres aussi, même si on n'est pas né avec, etc. Et du coup, c'est toute la question, en fait, de la question de l'identité, en fait. C'est ça que moi, j'essaye de représenter mon univers, mes références, ça brasse, en fait, dans ma langue. Et donc, la musique, pour revenir à la fameuse question, ben justement, je trouve que la musique, il y a de ça. Parce que, surtout maintenant, moi j'écoute de la musique de plein de langues que je ne connais pas. J'écoute en japonais, en hindi, en farsi, en énormément de langues, en wolof, en tout ce que vous voulez. Et en fait, bah, si on écoute souvent une musique, la langue, elle rentre aussi. Et en fait, comment on fait pour... est-ce que finalement, ce qui ne nous définit pas, c'est juste le son qui bouge, le mouvement du son? Et donc, je pense que c'est pour ça, personnellement, que j'avais besoin de musique dans mon œuvre.
Oui.
Ben, ça me parle vraiment beaucoup ce que dit Mélissa, puis aussi ce que Josué a dit. L'identité, en fait, encore une fois, on parle d'une identité, je trouve que ça nous met encore dans des boîtes. Et moi, ce que j'essaie de faire, surtout avec ma pratique artistique, c'est de défaire justement toutes ces frontières, parce que je suis fatiguée d'être cataloguée dans une identité. Donc, je suis Anishinaabe du côté de ma mère, mais je suis française du côté de mon père. J'ai grandi en partie dans le Finistère et dans l'Outaouais au Canada. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps en Amérique du Sud aussi. Donc, toutes ces expériences, en fait, font qui je suis. Et ça va au-delà même de l'identité culturelle ou linguistique aussi. Donc, voilà. Puis, bon, j'ai pas été formée à l'école de théâtre non plus. Donc, pour moi, c'était le tambour qui m'a appris à projeter ma voix aussi avec nos chants. Il n'y a pas de paroles. Normalement, c'est des vocales. Et je trouve que souvent, la voix chantée permet d'exprimer des choses bien au-delà des mots, que souvent les mots nous limitent, peu importe la langue. Et si j'écris en Anishinaabe Moen aussi, ou si je veux faire entendre cette langue sur scène, c'est déjà parce que c'est des langues qui sont nées du territoire où j'habite et il n'y a pas de place pour les entendre. Même beaucoup de Canadiens ou de Québécois, le mot Anishinaabe Moen, ils ne savent même pas que c'est le nom d'une langue et la langue qui est née du territoire où ils habitent. Donc déjà, il y a une volonté de ramener ces langues, de les entendre, de leur donner la place qui leur revient. Mais aussi, c'est une façon pour moi de me réapproprier cette langue. Ça passe beaucoup par ma pratique artistique. Mais le chant, c'est ma première école. Donc ça, je pense que ce sera dans tous mes projets.
Et est-ce que le théâtre, finalement, est le médium qui vous semble le plus pertinent, justement, pour tout ce qui vous nourrit, pour le porter sur scène et le diffuser à vos autres?
Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense que... En fait, l'art, je trouve qu'en tant qu'artiste, on a ce merveilleux outil qui est celui de pouvoir rejoindre les gens à travers les émotions, d'ouvrir les cœurs aussi. Donc moi, c'est un peu l'arme ou l'outil que j'ai eu envie d'investir pour pouvoir peut-être faire une différence.
Je reviens un peu sur le chant, parce que moi aussi, je fais du chant dans mon texte, tout simplement parce que je vais regarder à quoi sert le chant dans ma culture. Et je vois que dans ma culture, le chant est comme une arme pour les femmes. Et pour les hommes, c'est peut-être autre chose, mais pour les femmes, principalement, c'est une arme. Et comme je voulais parler d'un sujet assez émouvant, qui concerne aussi beaucoup les femmes, c'est pour ça que j'ai choisi de prendre le chant. Qui est leur âme, et ce chant qui est chanté ici arrive comme un cri de guerre, il arrive comme un cri de ralliement, parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui se mettent en dehors du combat des femmes, et donc c'est un cri de ralliement, mais c'est aussi un hymne à l'amour, parce que dans le chant, il y a plusieurs personnes qui sont réunies et qui ensemble disent quelque chose qui peut marquer les esprits. Et le chant aussi, ici, dans mon cas, c'est aussi un acte de compassion pour toutes ces familles qui connaissent la perte d'enfants. Et la question suivante, c'était... Je ne me souviens plus.
Le théâtre, est-il le médium?
Oui, le théâtre, pour moi, le théâtre, je crois que... J'aime le théâtre parce qu'il nous rapproche davantage de la réalité, du monde, du public. et les émotions sont, ils sont partagés avec beaucoup de faces. C'est les téléspectateurs, les téléspectateurs reçoivent cette émotion des comédiens et à ceux et qui eux essayent de reproduire celui de l'artiste que je suis. Donc c'est plusieurs émotions partagées et je crois que avec le théâtre, je pense que le message, le partage des émotions se passe mieux que dans le roman où on est seul à comprendre son texte, à le lire en fait.
C'est la frontière entre la fiction et le réel finalement, le théâtre.
Il y a une frontière, c'est vrai, le théâtre est une fiction par son écriture, mais il est réalité par la représentation.
Merci à tous les quatre. On va peut-être passer aux questions dans le public. Alors, je suis vraiment désolée, on est un petit peu timé par le temps. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au texte, par rapport à ce que vous avez entendu depuis deux jours?
Je vais vous emprunter un micro, peut-être que je peux faire circuler. Merci.
Pas forcément des questions, hein, si vous avez aussi envie de...
Des remarques.
De réagir par rapport au texte que vous avez pu entendre, à la présentation de La naissance du tambour hier soir. Sur le festival dans son ensemble. C'est le dernier moment pour à partager ensemble. N'hésitez pas.
Bonjour, moi j'avais une question pour Émilie Monet. Déjà j'ai beaucoup aimé votre texte, hein, merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Et je me demandais comment est-ce que vous, enfin si vous l'avez déjà fait, comment est-ce que vous imaginez la mise en scène? Parce que du coup j'ai beaucoup aimé le texte, mais aussi j'ai beaucoup de mal à voir comment est-ce qu'il peut être mis en scène et présenté en tant que théâtre.
Oui, alors moi ma pratique, ben, en fait ça revient à la question sur le théâtre. Pour moi, si j'ai choisi le théâtre, je pense que c'est le théâtre, c'est le meilleur moyen pour, comme forme artistique, pour appeler les ancêtres et pour faire voir, faire entendre l'invisible ou l'inaudible. Donc, je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai choisi le théâtre plus qu'une autre forme. Et ma pratique est très sonore dans mon cas, donc. Déjà, c'est bon, on a déjà travaillé à propos de la matière, de la cocotte, de la pomme de pin, comme vous dites ici. Et oui, ben, y a déjà beaucoup de choses à ce niveau. C'est assez installatif, c'est beaucoup à partir de la matière. Et là, les prochaines étapes de création, c'est vraiment de développer cette forêt chantante, voilà, et mystérieuse, et où les voix de l'invisible peuvent se manifester. Donc, mais bon, pour moi, c'était, cette étape, c'était pour voir si c'est un seul en scène ou si c'est à plusieurs voix, si c'est un texte choral. Donc, j'ai plein d'idées, mais voilà, ce sera très, très sonore la prochaine étape.
Dans ta pratique, comme dans celle de Je suis, il y a beaucoup de performatifs aussi.
Oui,
tu dépasses le texte pour aller vers autre forme.
Oui, oui, ça sera très performatif aussi et installatif. J'imagine peut-être une grande. Traîne comme une robe de mariée, mais toute faite en cocotte, qui serait la scéno, serait un grand costume en fait, qui prendrait toute la scène à voir. Une couverture de cocotte.
Une autre question? Pas d'autres questions? C'est le moment. Eh ben alors, merci à tous d'avoir assisté à cette deuxième conversation. Merci à vous de vos paroles, merci pour vos textes aussi, et de nous avoir permis de découvrir vos univers, de découvrir comment le monde vous a nourri et a permis ces jolis moments de rencontre. Merci beaucoup.
Et merci beaucoup, Olivier Frégaville, de L'Œil d'Olivier. Merci à toi d'avoir accepté de modérer ces deux temps de conversation sur le festival. Et c'est Hassan Kassikouyaté. Je te donne le micro, Hassan, pour clore l'édition 2024 des Ébords du Printemps. Merci.
Merci. Après avoir entendu toutes ces belles paroles et toutes ces paroles très importantes, je vais donner une pas moins importante, c'est les remerciements. On dit que là où les remerciements reculent, l'ingratitude prend la place et nous, on n'a pas envie que l'ingratitude arrive. Donc, on va remercier. Merci, remercier d'abord Olivier et les auteurs, autrices qui sont sur la scène en prenant pour eux, s'il vous plaît. Merci. Je vais profiter dire au nom de mon conseil d'administration et mon président Alain Van der Malière qui est là, ma vice-présidente Christine Deleville qui est là aussi, pour vous dire que vraiment nous sommes soutenus par notre administration et les administratrices et administrateurs qui sont dans la salle. Merci à leur nom. J'aimerais remercier particulièrement la ville de Limoges et le Centre culturel Jean Gaillan avec toute son équipe, sa directrice. Et voilà, et j'ai ému. Je suis très, très ému parce que après, avant d'avoir entendu toutes ces paroles, ces trois derniers jours, c'est très, très fort. Et je vais parler de quelques techniciens parce que ils ont fait le marathon, ils n'ont pas arrêté. Ils étaient là avant, pendant et après. Ils seront là tout à l'heure après aussi. Alors, je me rends compte que j'ai cassé mes lunettes sans main. Alors, tu peux les dire pour moi. Voilà.
Alors, un grand merci à Fernando López Fanigas. Merci, Fernando. Christophe Marot. Fabien Culet, Mathieu Texier, Bruno Le Faucheur et bien sûr Pierre-Henri Debrecht. Merci énormément. Merci énormément de tout votre travail pendant tout ce week-end. Merci beaucoup.
Alors j'ai retrouvé un bout de lunettes. Merci. Mais c'est vrai, on dit qu'un seul doigt ne ramasse pas un caillou. Merci Corinne d'être là. Donc Corinne qui a orchestré tout ça, la responsable de la maison de l'auteur au fils de la société. Merci Corinne. Merci à toute l'équipe de Francophonie des Écritures à la scène. Toute l'équipe mobilisée. Merci. Merci. À Christophe qui vole les images mais qui nous les restitue mieux. Merci. Et merci, je veux dire, à nos tutelles, parce que je vais finir avec d'autres, nos tutelles, le président, je peux dire, ou bien je te laisse la parole pour le dire. Voilà, je donne la parole au président.
Les tutelles, effectivement, je te l'ai déjà dit, mais nous ne vivons aussi d'abord grâce à vous, grâce évidemment aux autrices, aux auteurs, mais avec le soutien des puissances publiques, et ce depuis 40 ans, hein, depuis toujours, mais depuis l'origine, le ministère de la Culture, la ville de Limoges, le département et la région, le conseil régional, ont été des soutiens indéfectible et il constitue évidemment le socle du festival et c'est sa force et en plus c'est un socle uni et c'est très important, ça se retrouve effectivement au sein du conseil d'administration mais il faut sans doute le répéter plus que jamais, la culture dans ce pays n'existe vraiment que grâce à cet engagement de la puissance publique. C'est la particularité de la France, c'est la fameuse exception culturelle française. Mais dans la mesure où on commencerait, pas simplement maintenant, mais à la contester ou à penser que on pourrait s'en soustraire, il faudrait être très vigilant. Et des questions aussi importantes que les francophonies, je dis bien les, et ce qu'est à la fois le vecteur, vous l'avez rappelé, qu'est cette langue, mais qu'on entend ici dans toutes ses déclinaisons, et qu'on entend avec ses accents, ses syntaxes, ses lexiques, et donc avec sa vie et ses vies. Voilà. Et ça, vous le comprenez très bien. Depuis hier, c'est un bonheur, je voulais vous le dire, de vous écouter, non seulement de vous voir, mais de vous entendre. Et encore une fois, là, ce dernier débat, cette dernière conversation me comble. Vraiment, on a entendu des choses très belles, merveilleuses. Et je voudrais simplement, peut-être dédier simplement ce festival, je me disais en vous écoutant que j'aimerais que certains identitaires, que certains qui placent l'identité, d'abord l'identité, comme ça, au singulier, et qui la placent en tête de leur quête politique, qui répondent à sa question identitaire de façon brutale, univoque, frontale, c'est-à-dire des gens qui ont perdu le chemin de l'intelligence. Et je pensais à eux tout à l'heure, et j'aimerais qu'on puisse comme ça les amener là et vous écouter. Hein. Et il s'est dit tellement de belles choses, mais de choses vraies, fondamentalement, philosophiquement vraies. Et c'est ce qui fait aussi que ce festival est certes le théâtre, certes la langue au service de la langue, il est aussi un festival de la pensée, il est aussi un festival de la réflexion. Et ça, je crois que c'est aussi sa particularité, et c'est de toute façon une dimension que non seulement on n'abandonnera pas, mais qu'on va creuser plus que jamais. Donc oui, les gens sont curieux, oui, les gens ont envie d'écouter des textes, ont envie d'écouter des mots, donc de la pensée, donc de l'amour, donc de la fraternité. Voilà.
Alors, merci, mon président. Je vais continuer mon remerciement de retrouver les lunettes. Et je vais remercier aussi Cécile Morel et toute l'équipe qui sont là, et les journalistes, et les structures qui ont aidé, la SACD, l'OIF, l'Institut français, et Boton Théâtre, etc., etc., si j'en oublie, excusez-moi, et TC Caraïbes, comme on a dit, l'école à Haïti, le CDN de Ville, et je voulais finir avec les autrices et les auteurs et les lecteurs et lectrices. Bravo. Merci. Merci, merci, merci à vous, et vous donnez les quatre des Hébreux d'automne. Les Hébreux d'automne, c'est du 25 septembre au 5 octobre. Vous allez voir certaines pièces que vous avez entendues en lecture, vous allez les voir sur scène, et on vous réserve de très belles surprises. Et si vous avez des amis, vous dites aux amis de venir, ils seront encore plus amis avec vous. Si vous avez des ennemis, vous dites aux ennemis de venir, ils seront peut-être amis avec vous. Merci, merci beaucoup.
Merci. 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 Mer